Ce soir, on va étudier ensemble le psaume 46. Donc, si vous voulez bien prendre vos Bibles et donc les ouvrir au psaume 46, et je vais lire pour vous. Donc, le psaume 46, au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez! Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob, et pour nous une haute retraite. Donc pour ceux qui nous auraient rejoints après que j'ai commencé la lecture, donc nous allons étudier ce soir le psaume 46. Le psaume 46. Donc on ne sait pas exactement qui a écrit ce psaume. Plusieurs commentateurs s'accordent pour dire qu'il a été écrit après David. Donc pas écrit par David. Et certains y voient, plusieurs même y voient le contexte de la protection de Jérusalem, donc en fait au temps d'Ézéchias, lorsqu'Ézéchias, donc Jérusalem était attaquée par les Assyriens. Certaines Bibles donnent un titre au psaume qui cherche à en saisir donc le sens général. Par exemple, la Bible Osterwald l'intitule Cantique de louange à l'occasion d'une grande délivrance. Donc on a bien cette idée du thème peut-être de effectivement du contexte d'Ézéchias. Mais certainement, le contexte peut être vu de façon plus large. Et ce psaume parle au cœur des chrétiens qui sont dans une situation de détresse. Ainsi, on dit que Martin Luther aimait beaucoup ce psaume. Donc, Martin Luther, le grand réformateur allemand du XVIe siècle, il aimait beaucoup ce psaume et il avait le coutume de dire à ses compagnons, lorsqu'ils étaient dans des moments de découragement, Allons, chantons le psaume 46. Et d'ailleurs, je pense que le titre du grand cantique de Luther, c'est un rempart que notre Dieu, en fait, et c'est simplement le premier verset du psaume, Dieu est pour nous un refuge, donc le verset 2. Donc ce fameux cantique que nous connaissons tous, c'est un rempart que notre Dieu. Donc regardons ce verset 2. Et j'aime en particulier sa traduction donc dans la Bible Osterwald, qui dit ceci, Dieu est notre retraite, notre force, notre secours dans les détresses, et fort aisé à trouver, fort aisé à trouver. Donc ce verset plante le décor du psaume et son thème, le secours de Dieu dans les situations de détresse. Et remarquons les différents mots qui sont utilisés dans les différentes traductions. Retraite, force, secours, refuge, appui. Luther parle de rempart. Retraite ici, évidemment, ne parle pas de la retraite en fin de carrière, mais d'un lieu où on peut se retirer pour se protéger. Donc tous ces mots véhiculent le sens de la grande protection de Dieu. Alors une protection pour qui? Eh bien, une protection pour son peuple. Remarquez le pronom notre. Hein? Donc il dit, Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais à la détresse. Donc c'est pour nous, et nous, eh bien, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas tout le monde, c'est tous ceux qui ont mis en lui leur confiance. Tous ceux qui ont mis en lui leur confiance sont bénéficiaires de cette protection. Notez aussi cette belle expression. Donc, que j'ai cité dans Osterwald qui parle de Dieu en disant qu'il est fort aisé à trouver. Et dans la traduction Louis II, il dit qu'il ne manque jamais. Le secours de Dieu est facilement accessible aux chrétiens et il est indéfectible. Il ne manque jamais. Et pourtant, combien sommes-nous prompts à en douter? Alors, de quoi Dieu nous protège-t-il? C'est ce dont parlent les deux versets suivants, versets 3 et 4. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. Donc c'est un langage poétique et imagé, il traduit un chamboulement complet du monde dans lequel nous vivons. La terre est bouleversée, la furie de la mer ébranle les montagnes, dit la traduction Osterwald, la furie de la mer ébranle les montagnes, c'est, on pense à des tremblements de terre, à des tsunamis. Spurgeon, le grand prédicateur anglais du XIXe siècle, dit ceci à propos de ce passage. Le texte présente les bouleversements les plus terribles dans toute l'étendue de l'imagination et inclut le renversement des dynasties, la destruction des nations, la ruine des familles, la persécution de l'Église, le règne de l'hérésie et tout ce qui, en tout temps, pourrait mettre à l'épreuve la foi des croyants. C'est ce qu'a subi la Jérusalem d'Ézéchias, entourée par les troupes de Sennachérib l'Assyrien. Et vous pouvez regarder dans vos Bibles, en Ésaïe 8, verset 7, c'est un texte prophétique, un verset prophétique qui parle de cet événement qui est également décrit donc plus loin dans le livre d'Ésaïe, de façon historique, mais là il en parle de façon prophétique, Ésaïe 8, 7, et reprend cette image de l'eau qui submerge. « Voici, le Seigneur va faire monter contre eux, donc c'est-à-dire contre Juda, les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera par-dessus, partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. » Et on se rappelle effectivement que l'armée assyrienne a entouré Jérusalem comme ce fleuve, comme un fleuve, comme ce fleuve qui est allé jusqu'au cou, comme une personne qui est dans l'eau et l'eau lui monte jusqu'au cou. Et c'est ce qui est arrivé à Jérusalem. Sans vouloir diminuer les souffrances physiques ou morales de tout un chacun dans cette pandémie, je dirais que cela n'est rien à côté de ce à quoi le peuple de Dieu a été soumis et de ce à quoi il pourrait l'être encore. Comme dirait Jésus, ce n'est que le début des douleurs. Et aussi à ce à quoi a été soumis le monde. Je pense par exemple, j'ai toujours été beaucoup frappé lorsque mes parents, mon père est décédé il y a peu de temps et ma mère a 85 ans, ils m'ont raconté le temps de la guerre. La Seconde Guerre mondiale. Ma maman était une petite fille de 5 ans et elles habitaient dans le nord de la France et ils ont fui devant l'invasion des Allemands jusqu'en Bretagne et le long des routes, ils voyaient des cadavres de gens qui avaient été tués par l'aviation allemande. Et au même moment, mon père avait 11 ans et il se réfugiait avec sa famille dans la cave d'une maison qui était littéralement bombardée par les Allemands dans une bataille qui prenait place dans leur village. Nous n'en sommes pas encore là. Et cette guerre, cette terrible guerre, qui était il n'y a pas si longtemps, puisqu'elle est encore dans la mémoire de gens qui sont vivants aujourd'hui, on dit qu'elle a fait 100 millions de morts. 100 millions de morts. Évidemment, dans lesquels il y avait beaucoup de non-chrétiens, mais aussi des chrétiens. Mais ce verset, c'est aussi une image spécifique de la persécution des chrétiens, particulièrement, comme Ézéchias. Par exemple, dans notre pays, c'était il y a assez longtemps, mais en 1572, c'était dans notre France, il y a eu 50 000 protestants, probablement peut-être plus, qui ont été mis à mort en une semaine, lorsqu'on a appelé les massacres de la Saint-Barthélemy. Ils étaient massacrés dans les rues, sans autre forme de procès, sur les ordres de la reine. Et les persécutions des chrétiens ont continué tout au long des siècles jusqu'à nos jours. Par exemple, aujourd'hui, il y a des milliers de chrétiens chaque année qui sont massacrés au Nigeria, ils sont souvent décapités par les groupes musulmans des tribus Fulani. Des choses qui se passent au moment où je vous parle. Et que savons-nous réellement des souffrances des dizaines de millions de chrétiens qui sont en Chine et qui vivent sous la férule du régime communiste de Xi Jinping qui est particulièrement opposé à Dieu. Et aussi les chrétiens qui vivent en Corée du Nord, on n'entend même pas parler, mais dont on sait qu'ils sont dans une terrible persécution. Mais plus près de nous, ces versets, ils peuvent aussi tout simplement décrire l'angoisse d'un chrétien dans sa vie personnelle, pour diverses raisons, des raisons économiques, des raisons familiales, des raisons psychologiques, des raisons spirituelles, c'est ce qu'on appelle la tribulation. Et nous savons que nous serons tous soumis à la tribulation. L'apôtre Paul a dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Donc pour ceux qui subissent ces choses, quelle qu'en soit la cause, comme pour le roi Ézéchias, c'est comme si la terre était bouleversée, comme si les flots de la mer et les montagnes chancelaient. C'est quelque chose de terrible. Et pourtant, le psaume dit, au verset suivant, nous sommes sans crainte. Ou plutôt, il le dit au début, mais il dit, nous sommes sans crainte. Verset 3, nous sommes sans crainte. Alors pourquoi? Nous voyons ça, donc voyons la réponse au verset 5 et 6. Verset 5, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. On a ici un contraste saisissant entre d'une part ces flots mugissants, ces tsunamis en quelque sorte, et puis de l'autre côté le fleuve paisible dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Nous pensons à ce cantique comme un fleuve immense, c'est la paix large, et c'est un fleuve de paix. Si vous voulez bien prendre vos Bibles en Apocalypse, Apocalypse 22, au verset 1. Nous avons cette magnifique image du fleuve qui arrose la cité de Dieu, la Jérusalem céleste. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et plus loin, le verset 3, qui fait écho au verset 6 de notre psaume, dit ceci, « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Et nous voyons verset 6 du psaume, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Nous ne vivons pas encore maintenant dans la Jérusalem céleste, mais le psaume 46 nous parle de la paix spirituelle du peuple de Dieu maintenant, au milieu des montagnes qui s'ébranlent et des mers qui mugissent, au milieu des guerres, au milieu des persécutions et aussi au milieu des épidémies. Et ce fleuve de paix spirituelle, il provient du Saint-Esprit. Nous lisons en Jean, ce que dit Jésus, en Jean chapitre 7, versets 36 et 39, le fleuve, il dit ceci, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Les chrétiens persécutés n'obtiennent pas nécessairement une délivrance physique. Ce n'est pas ce que dit ce verset. La Jérusalem d'Ézéchias a été libérée, mais beaucoup de chrétiens meurent, comme nous dit Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 nous dit qu'ils sont lapidés, sciés, mis à toutes sortes d'épreuves, morts par le tranchant de l'épée, errant çà et là, au verset 37. Mais le même texte d'Hébreux 11 nous dit aussi ceci, il nous dit que par la foi, il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, 16. Et au milieu de ces mers qui mugissent, de cette terre ébranlée au milieu des persécutions, ils savent qu'il est un fleuve dont les courants réjouissent cette cité de Dieu et que Dieu est au milieu d'elle. Ils savent même que Dieu leur apportera son soutien sans tarder, car du matin. Frères et sœurs, cette cité, c'est l'image du peuple de Dieu, c'est son église au travers des âges. Et ce texte nous montre combien elle est précieuse à Dieu, combien il est prêt à lui venir en aide promptement. Et s'il ne s'agit pas d'une protection physique au travers d'événements qui sont guidés par sa providence, c'est un soutien de l'âme par le feu jaillissant de son esprit au milieu des épreuves et des persécutions. Mais souvent aussi, même si on a donc ce soutien spirituel, souvent Dieu a protégé son peuple par sa sainte providence. Souvent par des victoires militaires, il l'a fait à de nombreuses reprises. Par exemple pour Ézéchias, mais il l'a fait aussi dans toute l'histoire du peuple d'Israël, depuis la conquête de Canaan, dans le livre des Juges, le livre des Rois, on voit ça sans arrêt. Et c'est ce qui est évoqué au verset suivant. Au verset 7 et 8. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le langage du verset 7 nous fait penser fortement au psaume 2, où les princes de la terre se liguent contre l'Éternel et contre Dieu se moquent d'eux. Il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur, dit le psaume 2. Il suffit qu'il fasse entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. toutes ces nations qui persécutent les chrétiens comme la Chine, la Corée du Nord, les pays musulmans, ils se fondront d'épouvante un jour, peut-être, un jour proche, ou en tout cas à la fin des temps, comme le dit Apocalypse 6, où ils diront « Montagne, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Regardons les versets 9 à 11. « Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. » Les versets 9 à 11 décrivent cette victoire de Dieu sur les armées de Sennachérib, qui menaçaient Jérusalem. Elles ont été anéanties, elles ont été ravagées. Leurs armes ont été détruites et les combats ont cessé. Mais ces versets pointent aussi à la fin des temps, où le Seigneur règnera en maître incontesté. Après avoir vaincu ses ennemis, il fera cesser les combats. Il brisera les armes de guerre. Ésaïe 2 dit qu'il, avec les armes de guerre, il fera des sottes de charrues, des faux, donc des équipements agricoles liés à la paix. Le verset 11 est ainsi traduit en Osterwald. « Cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, et je serai exalté par toute la terre. » Là maintenant, le psalmiste regarde au-delà des jugements, au-delà du jugement, il regarde à un temps où les nations seront soumises à Dieu par la foi et l'exalteront. Regardons maintenant terminant avec le verset 12. « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Ce verset nous rappelle que cette présence de Dieu, elle se conjugue au présent. C'est maintenant que l'Éternel des armées est avec nous. Et s'il est juste de penser à cette cité céleste, de désirer nous trouver ensemble dans cette cité céleste après notre résurrection, à laquelle nous aurons part un jour, nous pouvons déjà nous dire que nous sommes spirituellement dans la cité de Dieu. Déjà nous sommes dans la cité de Dieu, déjà nous sommes la cité de Dieu et nous y appartenons, car nous sommes dans son Église, nous sommes le peuple de ses rachetés. Cette Église, il la chérit, il la protège, il la secourt dès l'aube du matin, il est au milieu d'elle et elle n'est point ébranlée. Voilà, maintenant qu'on a étudié ce psaume, je voudrais relire le cantique de John Newton, je pense qu'il vous paraîtra sous un regard nouveau, il parle bien mieux que moi de cette cité de Dieu. Donc je vais relire le psaume, le cantique de John Newton, puis ensuite je prierai et nous en aurons terminé. Donc le cantique de John Newton sur la cité de Dieu. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, Sion, cité de Dieu. Lui dont la parole ne peut être anéantie, t'a formé pour être sa propre demeure, fondé sur le rocher des siècles. Qu'est-ce qui pourrait ébranler ta paix? Entouré des murs du salut, tu peux te rire de tous tes ennemis. Regarde le fleuve de l'eau de la vie qui jaillit de l'amour éternel. Il abreuve si bien tes habitants bénis et leur enlève toute peur de manquer. Qui pourrait perdre courage quand une telle rivière coule toujours pour étancher leur soif? La grâce, comme le Seigneur qui la donne, ne fera jamais défaut d'âge en âge. Regarde, autour de chaque maison apparaît la colonne de nuée et la colonne de feu. Elles sont là pour la gloire et pour la protection, montrant que le Seigneur est proche. Habitants bénis de Sion, lavés dans le sang du Rédempteur, Jésus, sur lequel se reposent leurs âmes, les fait rois et prêtres pour Dieu. Sauveur, si par ta grâce, je suis citoyen de la cité de Sion, le monde peut rire ou me prendre en pitié, je me glorifierai en ton nom. Les plaisirs du monde sont éphémères, ainsi que son orgueil et ses apparences. Des joies solides et des trésors durables ne sont connus que des habitants de Sion. Prions. Seigneur Tout-Puissant, tu connais la situation de tout un chacun. Certains d'entre nous, Seigneur, sont au milieu des tribulations, dans leur santé physique ou mentale, dans leur être intérieur, spirituellement. Et ils ont besoin, Seigneur, d'entendre qu'ils appartiennent à la cité de Dieu et que tu es au milieu de cette cité et que tu les secours dès l'aube du matin. Et Seigneur, d'autres sont en paix, n'ont pas de problème dans la vie, et tout va bien. Mais Seigneur, nous savons que la tribulation attend tout un chacun, quelle que soit sa forme. Et Seigneur, nous demandons de préparer nos cœurs à la subir, mais surtout à nous préparer nos cœurs en nous disant que nous appartenons à la cité de Dieu, où coule le fleuve de l'eau de la vie, qu'elle n'est pas ébranlée, car tu la secours de l'aube du matin. Seigneur, puisses-tu faire cette œuvre dans nos cœurs. Nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit pour nous rappeler ces choses, pour nous réconforter au moment convenable. Je te prie, Seigneur, en Saint-Nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous.